Lecture, on va ouvrir nos Bibles dans l'Ancien Testament et on va aller dans le livre de l'Exode au chapitre 17. Mais juste avant, je voudrais vous raconter une petite expérience et j'ai un témoin puisque cela s'est passé à l'école biblique. C'est une expérience donc, qui va introduire finalement mon message, l'idée que j'ai eue à cœur. Et en préparant même ce message, je me suis souvenu de cette expérience. Donc cela s'est passé, et tu vas voir de quoi je vais parler, cela s'est passé en février 2022 cette fois. En février 2022, j'étais à l'école biblique et comme dans tout institut, école, il y a des périodes de vacances. Il y a des périodes de vacances et là, cette semaine-là, en février, au lieu d'avoir deux semaines, il n'y a qu'une semaine où l'ITB ferme. Mais pendant cette période, on a la possibilité de rester sur place et de pouvoir avancer pour éviter avancer dans les différents travaux de recherche, de pouvoir aussi se reposer d'une autre manière. Mais c'est aussi un peu donnant-donnant, parce qu'on reste sur place, mais il faut aussi aider dans les différentes tâches qu'il pouvait y avoir, l'entretien de les extérieurs, faire de la peinture, tout ça, enfin bref. Et du coup, on restait, mais en contrepartie, il fallait aussi mettre un peu la main à la pâte. Et du coup, moi, sachant cela, je décide de rester, parce qu'il y avait aussi les frais kilométriques, tout ça, je vais traverser toute la France, et pour une semaine, ça ne valait pas forcément le coup. Et du coup, pendant cette semaine, je reste sur place, l'école reste ouverte, on avance à notre rythme sur les différents travaux de recherche qui étaient en cours. On profite de la bibliothèque aussi, où il y avait plusieurs ouvrages dont on avait besoin. Et pendant cette semaine aussi, le cuisinier avec qui on s'appréciait beaucoup nous invite à passer un soir chez lui et de pouvoir manger ensemble. Et en plus de cela, ce soir-là, c'était un soir important puisqu'il y avait un match de Ligue des Champions. Donc je ne dirai pas les noms. Mais moi, je voulais aussi aller voir ce match pour voir une équipe perdre. Voilà, je ne dirai pas le nom non plus parce que... Donc, on va là-bas, il nous invite, on accepte. Et moi, j'étais allé chez lui il y a deux ans avant et je me souvenais qu'il habitait au fin fond d'une forêt. Vous savez, les forêts des Landes où il n'y a que des pins et voilà, il n'y a rien. Et il habitait au fin fond et je me souvenais juste de cela. Et le cuisinier, me donne son adresse. Et il m'explique vaguement, mais moi, je retiens pas tout, et je rentre son adresse dans le GPS, et le GPS me propose plusieurs chemins. Et logiquement, comme la plupart d'entre vous, j'ai choisi le chemin le plus court, celui qui m'emmène, en principe, à destination. Et en fait, je rentre, et je commence à partir, on roule sur des routes goudronnées, et tout va bien. Mais je commence un peu à douter un moment du GPS parce que le GPS me fait sortir justement de ces routes goudronnées pour commencer à prendre des routes un peu douteuses. Et jusqu'au moment où le GPS me fait rentrer dans une forêt. Et là, je rentre aussi sur ces chemins de sable. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait aussi cette expérience de rouler avec une voiture sur du sable. C'est compliqué, hein ? J'avais fait sur la neige, mais jamais sur le sable. Et je rentre, et à un moment donné, ce qui doit arriver arrive. Malheureusement, je m'ensable. Ma voiture reste coincée. On est un soir de février, à Bordeaux, il pleut. Le sable est mouillé. Je suis en pleine forêt, on a juste du téléphone, juste le réseau GSM qui passe, et tant mieux. Et là, avec Olivier et un autre collègue, on se dit comment on va faire. On était attendu et du coup, j'appelle le cuisinier, je lui dis, je passe tous les détails, mais je lui dis, il faut que tu viennes me chercher, il faut que tu me sortes de là, parce que sinon, je ne sais pas comment faire. Et du coup, il vient, après plusieurs heures, on sort ma voiture, je sors de ces chemins, je sors de cette forêt, je reprends des routes goudronnées. Et j'arrive chez le cuisinier, et là, on rate, à cause de moi, et du GPS, il faut dire ce qui est vrai, on rate 80% du match, puisqu'on voit seulement les 10 minutes. Mais les joueurs avaient attendu qu'on soit là pour marquer le but. Donc on a été récompensés. Et donc on voit cela, et aujourd'hui, voilà, on en parle, on en rigole, mais sur le coup, je rigolais pas trop. Et pourquoi je vous parle de cela ? Et c'était une introduction, parce que dans notre vie chrétienne, pour aller d'un point A, à un point B, bien souvent, on essaye de prendre le chemin le plus court et le plus direct. N'est-ce pas ? Vrai ou pas ? On essaye de prendre ce chemin le plus direct. Et cependant, parfois, il arrive que le Seigneur, pour nous amener justement vers ce point B, choisisse des routes qui ne sont pas les plus courtes. Choisisse des routes qui, à notre regard, avec notre regard, on a l'impression que c'est les routes les plus longues qui puissent exister. Et bien souvent, le chemin de Dieu pour notre vie peut être fait de détours et de zigzags. Mais quel que soit le chemin par lequel le Seigneur peut nous faire passer, même si cela peut nous perturber, même si cela peut nous déstabiliser, même si on peut à un moment donné douter de ce chemin, le chemin par lequel le Seigneur nous fait passer, c'est le chemin par lequel il veut que l'on passe. C'est par ce chemin. Parce que si l'on peut douter de ce GPS, comme j'ai pu douter un moment de ce GPS et de là où il me faisait passer, il y a une chose qui est vraie, certaine, sûre et qui ne change pas, c'est qu'on ne peut pas douter de Dieu. Et je voudrais qu'on puisse faire cette lecture dans Exode, chapitre 13, et à partir du verset 17. Exode 13, verset 17, il nous est dit « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. » Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est là, c'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira aux des enfants d'Israël, « Ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. Amen. Amen. Pour nous qui lisons la Bible, on connaît très bien ce passage où il est question de ce peuple d'Israël qui sort de ce pays d'Égypte, qui a vu la main miraculeuse de Dieu intervenir pour que Dieu puisse faire sortir son peuple. Et on voit une chose, c'est qu'une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, ce peuple doit aller, et la destination elle est simple, en terre promise. Ce peuple doit aller vers Canaan, dans ce pays où coule le lait et le miel. Mais nous remarquons une chose, et on l'a lu, c'est que le chemin le plus court, ce n'est pas le chemin par lequel le Seigneur va faire passer ce peuple. Le peuple hébreu ne va pas passer par ce chemin, et le Seigneur choisit volontairement de faire ce détour parce qu'il avait prévu et il attendait son peuple dans le désert. Pour rappeler un petit peu le contexte, le peuple hébreu, comme je viens de le dire, était tenu en esclavage par les Égyptiens. Ce peuple souffrait à cause de la servitude, à cause de la souffrance que les Égyptiens pouvaient faire. Et ce peuple, lorsque vous lisez le début, va crier à Dieu, va pousser des cris vers Dieu pour qu'il puisse intervenir, pour qu'il puisse les délivrer de ce pays. Et lorsque on lit le début du de ce livre, Dieu va entendre les cris de son peuple et Dieu va se souvenir de son alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Et parce qu'il va se souvenir de cela, parce que Dieu est un Dieu aimant son peuple, il va envoyer Moïse auprès de son peuple pour le faire sortir de cette Égypte, pour le libérer de ce pays. Mais le début du livre aussi, et je vous laisserai le relire chez vous, nous montre une chose, c'est que pour que ce peuple sorte de ce pays, ben ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Il a fallu qu'il y ait plusieurs plaies, 10, pour que Pharaon laisse partir ce peuple. Et ce peuple va, après la 10e plaie, va quitter l'Égypte pour aller en direction qui est simple, prendre une direction qui est très simple, c'est Canaan. Prendre la direction de cette terre promise par Dieu. Une fois qu'il y a eu l'agneau qui a été sacrifié, le sang qui a été répandu sur les linteaux de ces portes, une fois qu'il y a eu l'intervention miraculeuse de Dieu dans ce pays, la prochaine destination pour ce peuple, c'est Canaan. Ce même Dieu qui a promis à Abraham, Isaac et Jacob doit dire à ce peuple, voilà, maintenant vous êtes sortis d'Égypte et il faut aller dans cette terre promise. Et lorsqu'on lit le texte, nous apprenons une chose, c'est qu'il y avait un chemin pour se rendre d'Égypte à Canaan. Il y avait un chemin simple, un chemin entre ces deux villes, un chemin commercial, le chemin, la Bible l'appelle le chemin des Philistins. Un chemin qui était simple, rapide, puisqu'en entre 10 et 15 jours, on atteignait ces villes. Ce chemin était simple, ce chemin était sans grande difficulté, ce chemin était aussi très connu. Et très certainement, ce peuple, lorsqu'il a su qu'il devait aller en terre promise, très certainement, ce peuple qui connaissait ce chemin va dire, bon, on va passer par là, on va prendre cette direction, on va prendre ce chemin pour aller là-bas parce que c'est le chemin le plus court. Mais le chemin par lequel le Seigneur les fait passer n'est pas cette route. Et Dieu a choisi volontairement, et je dis bien volontairement, c'est un choix de Dieu, que ce peuple fasse un détour par le désert. Il nous est dit, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. On lit encore, ils partirent de Succoth et ils campèrent à Étham. Au début du chapitre 14, il est question de Dieu qui va parler à Moïse et qui va lui dire, tu diras aux enfants d'Israël d'aller camper dans cette ville à Pi-Hahiroth. Et lorsqu'on regarde une carte, lorsque l'on regarde le point de départ de ce peuple d'Israël et la direction qu'il est en train de prendre, on constate une chose, c'est que la direction est complètement à l'opposé de la destination. C'est complètement l'opposé. On doit aller comme ça, mais le Seigneur nous fait passer par là. Et là, c'est quand même incompréhensible. Quand le Seigneur dit, ok, on va à Canaan, mais pour aller à Canaan, vous n'allez pas prendre la route la plus simple, vous allez faire un détour. Et là, c'est incompréhensible. Pour Israël, aller dans cette direction, c'est comme le dit Pharaon, s'enfermer dans le désert. C'est s'enfermer dans le désert. On n'arrive même pas à comprendre. Ce n'est pas logique. Mais pourtant, c'est le chemin que le Seigneur a choisi pour son peuple. C'est le chemin par lequel Dieu attendait son peuple. Et j'aimerais faire une application à nos vies. Le Seigneur nous donne parfois des directions très simples, très claires. Il nous montre là où il veut nous emmener. Il nous montre comment il veut se servir de nous. Il nous montre la direction que l'on doit prendre. Ça peut être tellement dans tellement de domaines. Parfois, le Seigneur appelle quelqu'un à le servir, mais à cœur qu'il doit le servir, qu'il le servira. Il y a cette destination qui est là. Parfois, ça peut être une promesse qui a été faite de la part du Seigneur, quelque chose qui est fort sur ton cœur et que tu sais que ça vient du Seigneur. Il te donne, il te fait voir de visualiser la destination. Et on pourrait citer tellement d'exemples, mais lorsque on le remarque une chose, pardon, c'est que lorsque le Seigneur nous montre cela, parfois, pour aller dans cette destination, pour aller vers cette promesse, l'itinéraire par lequel le Seigneur nous fait passer n'est pas toujours une ligne droite. On nous a toujours appris en géométrie que le chemin le plus court entre un point A et un point B, c'est une droite. Vrai, on nous a appris ça. Et avec le Seigneur, ce n'est pas comme ça. Il se peut que le Seigneur puisse nous faire passer par un itinéraire qui nous laisse l'impression, à l'exemple de ce peuple, que l'on va à l'opposé de ce que le Seigneur nous a dit. Qu'au lieu de nous rapprocher même de cette destination, finalement on s'en éloigne. Mais j'aimerais dire aussi que l'image de cette terre promise, que Canaan, c'est cette image aussi de notre vie, de notre vie chrétienne, de cette terre promise que nous sommes appelés à prendre possession. Lorsque nous sortons de notre Égypte, lorsqu'il y a eu cette révélation de qui est Jésus qui nous fait sortir de cette Égypte, lorsque le Seigneur nous fait passer de la mort à la vie, d'état de pécheur à enfant de Dieu, lorsqu'il nous offre sa vie et qu'il nous dit que nous devons vivre cette vie maintenant, frères et sœurs, on ne passe pas de la terre au ciel en un clin d'œil. On ne passe pas de nouveau-né spirituel à homme ou femme mature dans la foi en un instant. Il y a tout un chemin. Il y a toute une étape à prendre. Il y a tout un chemin par lequel le Seigneur nous fait passer avant d'arriver là où il veut que nous soyons, avant d'arriver au ciel. Il y a tout un chemin. Il y aura encore, c'est vrai, des luttes. Il y aura encore des combats. Il y aura encore des choses à mener, des choses à vivre pour pouvoir entrer dans cette vie. Et durant toute notre existence sur terre, il y a ce chemin. Et ce chemin qui peut parfois être fait de détours. Et je le redis, peut-être que le Seigneur t'a fait visualiser ce point B, qu'il t'a montré certaines promesses dans ta vie. Peut-être que c'est dans ton travail, peut-être que c'est dans ta famille, dans ta santé, peut-être que c'est même dans le service avec lui. Peut-être qu'il t'a fait montrer quelque chose. Il t'a peut-être même mis à cœur quelque chose sur ton cœur. Tu sais que ça vient de lui, que ça ne vient pas d'un homme, mais tu ne comprends pas les détours par lesquels il te fait passer. Au point de peut-être de te dire, mais est-ce que le Seigneur a réellement dit ? Est-ce que le Seigneur, c'est là où il m'attend ? Est-ce que c'est ce que veut le Seigneur ? Et face à tous ces détours, alors que tu as pris même la décision de suivre Jésus, de le servir, peut-être même tu le sers dans l'Église, mais tu ne comprends pas pourquoi ce n'est pas simple. Tu ne comprends pas pourquoi c'est compliqué, pourquoi la vie elle n'est pas si simple. Et à l'exemple de ce peuple, Dieu peut choisir de prendre un chemin, un autre chemin. Le chemin de Dieu, le détour par lequel Dieu nous fait passer et par lesquels il nous fait passer sont toujours là dans un but bien précis. Et on va répondre à cette question, pourquoi Dieu nous fait-il faire des détours ? Vous allez voir, c'est très simple. Hein, la Bible, et c'est même le texte qui nous le dit, mais la première raison, lorsque le Seigneur nous amène à faire un détour, c'est dans le but de nous protéger. C'est dans le but de nous préserver. Parce que nous ne sommes pas prêts à franchir l'étape suivante. Le verset 17, la fin nous dit, « Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. » Voilà la raison qui est simple. Si le peuple avait pris le chemin des Philistins, si ce peuple avait pris cette route facile, en arrivant devant ce peuple, en arrivant vers ce peuple, les Israélites auraient pris peur, les Israélites se seraient découragés et même les Israélites auraient abandonné Dieu. Et il serait retourné en Égypte. Mais Dieu va prendre soin de son peuple. Il sait que son peuple n'est pas prêt à combattre. Et si Dieu fait le choix volontaire de faire prendre un chemin différent pour son peuple, c'est dans le but non pas de le perdre, non pas de l'éloigner, mais c'est dans le but de le préserver et de le protéger. Dieu connaissait son peuple. Dieu connaissait son peuple. Et lorsque l'on regarde toute l'histoire de ce peuple, il en a fallu peu pour que ce peuple se décourage. Il manque un peu d'eau et le peuple se décourage. Ils n'ont pas ce qui, au niveau de la nourriture, ça ne leur convenait pas, ils se découragent. On voit qu'il en a fallu peu. Et Dieu savait que son peuple n'était pas prêt. Ce peuple n'était pas prêt. Mais pourtant, lorsqu'on lit le texte, il y a un détail, c'est le verset 18, la fin du verset 18, où il nous est dit « Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. » Et l'on pourrait se dire « Mais Seigneur, tu es en train de dire que ton peuple n'est pas prêt à combattre Mais pourtant, ce peuple sort d'Égypte armé. Ce peuple sort d'Égypte avec les armes à la main, prêt à combattre. Certaines traductions disent militairement, bien rangé, c'est-à-dire prêt à combattre s'il le fallait. Mais malgré cela, malgré le fait que ce peuple sorte d'Égypte avec les armes, ce peuple n'était pas prêt à combattre les Philistins. Dieu va dire « Mon peuple n'est pas prêt ». Et je voudrais dire, ce n'est pas parce que nous sommes armés que nous sommes prêts à combattre certains combats dans notre vie. Vous allez me dire, oui, mais le Seigneur peut combattre pour nous. Oui, mais le Seigneur peut agir, peut intervenir de manière miraculeuse dans ma vie. Il peut faire ce qu'il veut. Oui, c'est vrai. Mais même si cela est vrai, il y a certaines choses dans lesquelles nous ne sommes pas prêts. Et Dieu a vu qu'Israël n'était pas prêt. A vu que son peuple n'était pas prêt. Et dans sa préscience, Dieu savait que si son peuple s'engageait dans la guerre, celui-ci allait se décourager, que celui-ci allait l'abandonner et que ce peuple retournerait en Égypte. Et comme pour ce peuple, parfois, nous passons par des détours juste parce que nous ne sommes pas prêts à mener certains combats, juste parce que nous ne sommes pas encore prêts à franchir l'étape suivante. Le Seigneur nous fait visualiser ce qu'il attend de nous. Il est là, il nous montre ce que là où il veut nous amener. Mais si on passe par ces détours, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas formés, parce que nous ne sommes pas encore préparés et que si on part dans ce combat, on va se décourager. Et si le Seigneur nous fait passer par un détour, c'est pour, dans un premier temps, nous protéger, nous préserver. C'est pour nous protéger que le Seigneur nous fait passer par des détours. La deuxième chose, et même si le texte ne le dit pas, la deuxième raison, c'est que c'est dans l'objectif de le connaître encore plus. Malgré le fait que ce peuple a vu l'intervention de Dieu en Égypte, l'intervention miraculeuse de Dieu, ce peuple connaissait Dieu, mais ce peuple avait une connaissance, je vais le dire de cette manière, qui restait encore faible. Qui restait encore faible. Ils avaient besoin de plus, ils avaient besoin d'avoir cette, non pas juste cette connaissance, juste cette intelligence de savoir qui était Dieu, mais ils avaient besoin d'avoir cette conviction de qui était Dieu. Ils avaient besoin de découvrir le Dieu de l'Alliance. Ils avaient besoin de découvrir le Dieu qui allait pourvoir à leurs besoins, le Dieu de la Providence. Ils avaient besoin de découvrir que Dieu serait avec eux. Ils avaient besoin de lui faire confiance. Et si nous regardons la suite des chapitres de notre lecture, nous voyons que Dieu va se révéler dans ce désert. Certes, il y a eu un détour, mais c'est dans le but que ce peuple apprenne à connaître encore plus le Seigneur. Dieu va se révéler comme celui qui est le Tout-Puissant, celui qui va ouvrir la mer en deux et qui va faire passer ce peuple à sec et qui va terrasser aussi Pharaon et son armée. Il se révèle comme celui qui pourvoit, il donne la manne et l'écaille, il change l'eau amère en eau douce. Il se révèle comme le Dieu qui combat pour eux face à Amalek. Il est ce Dieu aussi qui va donner sa parole, il est ce Dieu qui donne ses ordonnances, il donne ses commandements. Et c'est dans ce temps de désert que ce peuple va découvrir qui est réellement Dieu et que ce peuple va se former et qu'après seulement, ce peuple pourra rentrer en terre promise. Il a fallu cette étape, il a fallu ce temps de désert. Il n'aurait jamais pu vivre tout cela, ce peuple n'aurait jamais pu connaître Dieu en seulement 10 à 15 jours de marche, juste en prenant le chemin des Philistins. Il a fallu ce détour pour ce peuple par ce désert. Vous savez, Dieu permet des détours pour nous faire passer au désert. Et lorsque l'on parle de désert, très souvent, on n'en a pas une bonne image. Très souvent, lorsqu'on parle du désert, on pense à la sécheresse, à la chaleur, à la canicule, à un endroit aride où il n'y a rien qui pousse. Et très souvent, on a cette image du désert. Mais je faisais des recherches et lorsque l'on regarde le mot en hébreu, celui-ci peut avoir bien sûr une connotation négative, mais il peut aussi avoir une connotation positive. Parce que dans le mot « désert » en hébreu, il y a la notion de parole. Parole dans le sens « être conduit ». Parole dans le sens être conduit comme un berger qui suit de près le troupeau. Le désert a cette notion de parler, d'être conduit, a cette notion de pâturage, a cette notion aussi de nourriture. C'est-à-dire d'avoir de l'herbe verte pour le troupeau, pour que le troupeau se ressource. Il y a cette notion dans le mot désert en hébreu. Et lorsque Dieu nous conduit dans le désert, c'est dans le but de nourrir son peuple, c'est dans le but de le faire grandir. Et je le redis, bien souvent, on a une mauvaise image du désert. Ou quand on parle du désert, tout de suite, on regarde les points qui ne sont pas bons, qui ne vont pas. Mais dans le désert, quand Dieu nous envoie dans le désert, déjà c'est Dieu qui nous envoie. Et c'est dans le but, dans un but bien précis, de nous faire grandir, d'entendre sa parole, d'entendre sa voix. Nous avons besoin de gagner en maturité avant de passer dans une autre étape. Et peut-être que tu as besoin de le connaître encore plus. Oui, ça fait peut-être 5, 6, 10, 15, 20 ans, 30, 40, 50, allez, j'essaye 60 ans, j'arrête, que tu es converti. Et peut-être que tu as besoin encore de le connaître encore plus. Tu as besoin de le connaître encore plus. Avant d'arriver là où le Seigneur souhaite t'envoyer, il faut que tu grandisses dans sa connaissance. Il faut que tu apprennes à le découvrir encore plus. Et peut-être que tu n'es pas encore prêt pour passer les étapes suivantes. Peut-être que tu n'es pas encore prêt pour aller dans cette terre promise. Enfin, tu n'es pas encore prêt ou prête. Et nous avons besoin, lorsque nous passons, même si on peut passer par ces temps de désert, même par ces détours, nous avons besoin de nous enraciner encore plus, d'apprendre à le connaître encore plus. Et je le redis, mais ce détour n'a pas pour but de perdre. Ce détour n'a pas pour but d'éloigner son peuple. Mais lorsque Dieu va faire ce détour pour ce peuple, c'est dans le but de le préserver et de le préparer en vue de rentrer dans cette terre promise. Il y a dû avoir toute cette étape. Les détours de Dieu sont toujours là pour notre bien. Et j'aimerais terminer avec ce point et à cette question, pourquoi Dieu nous fait-il passer par des détours? Pourquoi il te fait passer par ces temps de désert? C'est simplement, et on l'a lu, pour faire éclater sa gloire. Pour faire éclater sa gloire dans ta vie. On l'a lu, Exode 14, verset 4, il nous est dit « J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent ainsi. » Les différentes étapes, les différents détours, les différents temps, peut-être de désert qu'il peut y avoir dans ta vie, serviront et vont servir à faire éclater sa gloire dans ta vie. Ils serviront à cela. Le peuple va, lorsqu'on regarde cet événement, quand juste après on voit que c'est le passage de la mer Rouge, et le peuple va se retrouver dans une impasse. Devant lui, il y a la mer. Derrière, il y a l'armée égyptienne qui arrive. Et ce peuple va se retrouver être pris de panique. Et ils vont aller voir Moïse. Ils vont aller le voir, ils vont lui dire « Mais n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ?» Et bien souvent, on est comme ce peuple. On n'est pas meilleur qu'eux. On est comme ce peuple. On est là et on ne comprend pas pourquoi on passe par ce détour, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a ce temps de désert dans notre vie. Et à l'exemple de ce peuple, on peut se plaindre auprès du Seigneur comme ce peuple va se plaindre auprès de Moïse en disant « Mais pourquoi ce désert? Pourquoi tu nous as emmenés ici? Pourquoi je passe par là ?» Mais le Seigneur va dire « Pharaon et son armée serviront à faire éclater ma gloire. » Serviront à faire éclater ma gloire. Et vous connaissez la suite. Dieu va ouvrir la mer en deux. Le peuple va passer à sec. Et les Égyptiens vont commencer à passer. Et cette mer va se recouvrir sur eux. Et on l'a lu en introduction. Le peuple va dire, mais je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. les déserts, les temps, les détours par lesquels tu peux passer sont là dans le but aussi de faire éclater sa gloire dans ta vie. Les plans de Dieu, et je vais terminer, mais je dis les plans de Dieu et le chemin que Dieu, par lequel nous fait passer, n'est pas toujours une ligne droite. Les chemins du Seigneur sont des chemins de droiture, malgré leur apparence. Et même si parfois on peut en douter, même si parfois on peut ne pas comprendre, si nous pensons que le Seigneur ne nous conduit pas par le chemin le plus court, le chemin le plus simple, soyons certains que le chemin par lequel il nous fait passer, c'est le chemin par lequel on doit passer et c'est le chemin qui est le mieux pour nous, dans le but de nous préserver, de nous protéger, dans le but d'apprendre à le connaître plus, de découvrir encore des facettes de sa personne, mais c'est aussi dans le but de faire éclater sa gloire. Amen. On va prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, parce que c'est vrai que, Seigneur, tu es celui qui nous conduit, qui nous connaît parfaitement. Tu es celui, Seigneur, qui veille sur nous, Seigneur. Et c'est vrai que des fois, on peut passer par ces temps où on se dit, mais pourquoi, Seigneur, ce détour? Pourquoi, Seigneur, il y a, Seigneur, ce chemin qui est difficile, ce désert qui est là? Mais Seigneur, si tu nous fais passer par là, c'est pour une bonne raison. Alors Seigneur, je veux te prier pour mon frère, ma sœur ce matin, qui peut avoir cette impression que rien n'avance, qui peut avoir l'impression, Seigneur, que certes, il y a eu une promesse qui a été faite, il y a eu quelque chose qui a été fait de ta part, mais Seigneur, la direction que cette personne est en train de prendre est complètement à l'opposé et elle ne comprend pas. Seigneur, je veux te demander encore de la bénir encore plus. Tu nous as fait cette promesse d'être avec nous, de nous accompagner. Et quand tu nous fais passer par ces chemins, ce n'est pas pour nous délaisser, mais c'est pour être là, proche de nous, comme ce berger. Tu es notre bon berger qui nous conduit, Seigneur, en tout temps. Alors je veux te dire de bénir, Seigneur, ces personnes qui ont besoin. Seigneur, de poser ta main, Seigneur, que tu puisses les encourager, qu'ils puissent non pas murmurer, mais qu'ils puissent se dire, « Ok, Seigneur, je passe peut-être par un chemin de désert, mais je veux apprendre encore plus à te connaître. » Merci encore, Seigneur, de bénir chacun. Nous voulons te louer, Seigneur, et te remercier pour toute cette matinée. À toi soit toute la gloire, Père. Amen.